J'en viens à la présentation de notre intervenant de ce soir, Anthony Lodge. Anthony Lodge est linguiste, il est professeur de linguistique française à l'université St Andrews en Écosse. Pour son parcours, il est diplômé de français de l'université de Manchester et de Paris, sous la direction du professeur Rosswell. Il a un doctorat de l'université de Manchester avec une thèse intitulée « Une édition critique du livre des manières » de Étienne de Fougères. Pour sa carrière, entre 1967 et 1984, il a été maître assistant et maître de conférence au département de français de l'université d'Aberdeen en Grande-Bretagne. Entre 1984 et 1995, il a été professeur de français et chef du département de l'université de Newcastle. Et depuis 1995, il est professeur de français et de linguistique française à l'université de St Andrews. Anthony Lodge est spécialiste de la langue française et notamment de son évolution depuis le XIIe siècle. Ses travaux ont également porté sur l'occitan au Moyen Âge. Pour sa bibliographie, je citerai un certain nombre d'ouvrages. Tout d'abord, publié par l'Académie des sciences et belles-lettres de Clermont-Ferrand en 1985, le plus ancien livre de contes des consuls de Montferrand, puis publié en 1993 pour la première édition, en 1997 pour la nouvelle édition chez Fayard, le français, histoire d'un dialecte devenu langue, puis les premières branches du roman de Renard, publié en 2001 aux éditions Peters, Louvain et Paris, et enfin à paraître en décembre 2003, A Sociolinguistic History of Parisian French, publié par Cambridge University Press. Voilà. Anthony Lodge, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons une séance de questions-réponses avec le public. Je vous remercie.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de dire tout d'abord le plaisir que j'ai à être là. Et combien je suis sensible à l'honneur que m'a fait l'Université de tous les savoirs en m'invitant à venir parler devant vous ce soir. C'est un privilège dont je suis infiniment reconnaissant. Je dois avouer tout de même que mon plaisir est teinté d'une certaine appréhension. Il peut paraître curieux, même présomptueux, qu'un Britannique vienne disserter devant un public de Parisiens cultivés sur l'histoire de leur langue. D'excellents historiens du français foisonnent dans les universités de Paris et tout Parisien doté d'un minimum de culture connaît infiniment mieux les détours de linguistique de cette ville qu'un anglophone débarqué des lointains rivages de l'Écosse. Si mes propos arrivent à stimuler chez vous un certain intérêt, ça reviendra surtout du fait qu'un regard extérieur peut toujours éclairer des domaines que les gens du cru, par familiarité, négligent ou méprisent. Eh bien, le titre de ma conférence reprend celui de mon ouvrage qui sortira le mois prochain chez Cambridge University Press. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 7-8 ans. Et au cours de cette période, j'ai été souvent amené à expliquer ce que je fais à des collègues anglais, allemands, français. En général, la réaction était, comment dirais-je, polie. En face de moi, ils disent « Oui, monsieur Lodge, votre projet est tout à fait intéressant. » Entre eux, je les sens dire « Il est complètement cinglé. Son truc est trop grand et il n'a pas de preuves. » Aujourd'hui, je donne raison à mes collègues. Mon sujet ce soir est trop vaste. Les preuves historiques sont certainement trop fragiles, mais les questions qu'ils soulèvent sont tout de même intéressantes. Qu'est-ce d'abord que la sociolinguistique historique ? La linguistique, proprement dite, s'occupe de la structure interne, phonétique, grammaticale, sémantique des langues. La sociolinguistique, par contre, se concerne des rapports entre une langue et les divers groupes de locuteurs qui la parlent. Elle s'intéresse aux différentes fonctions que peut remplir une langue dans une société donnée. Elle s'occupe de la variabilité des langues, de la stratification sociale, de la diversité stylistique. L'extrême élasticité des langues pousse enfin les sociolinguistes à examiner comment et pourquoi les langues changent. Ceci m'amène à la sociolinguistique historique. Cette branche de notre discipline utilise les concepts, les techniques de la sociolinguistique pour élucider les états de langue passés. Elle suppose que les propriétés observables dans les communautés linguistiques du monde actuel, variation, stratification, évaluation sociale des variantes, étaient également présentes dans les communautés du passé. Elle pose comme principe que l'évolution d'une langue est étroitement liée à celle de la communauté qui la parle. Les linguistes ont longtemps voulu croire que les langues évoluent d'elles-mêmes, indépendamment des locuteurs. Pour le 19e siècle, c'était des lois phonétiques opérant aveuglément, sans admettre d'exception, qui propulsaient les langues en avant. Pour les structuralistes du XXe siècle, c'était des pressions exercées par le système interne de la langue. Pour la sociolinguistique historique, en revanche, les langues ne changent pas d'elles-mêmes. C'est les locuteurs qui les font changer, s'entend la collectivité des locuteurs, non seulement des élites de gens lettrés. Une histoire sociolinguistique se doit donc d'être multidimensionnelle et non pas unidimensionnelle. Eh bien, cet édifice de la sociolinguistique historique est bien beau, bien intéressant. C'est d'ailleurs un édifice bien nouveau, mais c'est un édifice bien fragile, bien vulnérable. Il existe une difficulté centrale, et vous le prévoyez certainement, une difficulté centrale susceptible de faire écrouler tout l'édifice à tout moment, c'est le problème des preuves. Peut-on réellement savoir comment parlaient les Parisiens ordinaires au XIVe siècle? Eh bien, dans ce qui suit, je vais diviser ma conférence, comme il se doit, en trois parties. Dans une première partie, je vais parler et aborder le problème des preuves. J'exposerai ensuite le cadre analytique que je vais utiliser plus tard, et j'entrerai enfin, finalement, dans le vif du sujet, l'histoire sociolinguistique de Paris, telle que je le vois. Bon, d'abord, le problème fondamental des preuves. Tout historien de la langue doit confronter dès le départ la dure réalité de son métier en matière de preuves, en matière de données. Notre situation est invariablement mauvaise. Il existe à Paris depuis le XIIIe siècle beaucoup de renseignements sur l'usage écrit. Mais quand il s'agit d'aller au-delà, vers la langue parlée, même chez les élites, les sources se dessèchent et celles qui subsistent sont souvent trompeuses. Les paroles des hommes, une fois lâchées, s'envolent, sans laisser normalement la moindre trace de leur passage. Les données linguistiques parvenues jusqu'à nous sont rarement celles que le linguiste aurait choisi, laissées à lui-même. Elles survivent d'une manière entièrement fortuite. Elles sont fragmentaires et loin d'être représentatives de tous les registres d'une langue. Ceci dit, quand il s'agit de l'histoire sociolinguistique précisément de Paris, nous avons des raisons de ne pas être trop pessimistes. Pour toute une série de raisons, la production dans cette ville de textes écrits a été très élevée depuis le XIIIe siècle. Les Parisiens ont toujours aimé écrire. Parmi ces textes, les documents d'utilité sociolinguistique sont rares, mais ils sont vraisemblablement moins rares dans le cas de Paris que dans la plupart des autres villes d'Europe. Voici les principaux types de documents que nous pouvons utiliser. avec l'exemple, les textes les plus connus. Je ne veux pas rentrer dans les détails de cette liste. Il suffit de dire que des indices existent. Mais par rapport à ce qui devrait exister pour faire de la sociolinguistique une science dure, ça, c'est peu de choses. Le linguiste historien se trouve ainsi dans la situation du paléontologue ou de l'archéologue. Le métier l'oblige à faire des hypothèses à partir de presque rien. C'est difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de savoir ne pas en faire quand le presque rien tombe à rien. La nature des sources, donc, m'oblige à nuancer soigneusement toutes les conclusions que je veux en tirer. Mais au moins, comme je l'ai dit, à Paris, des sources existent et elles méritent, me semble-t-il, d'être mieux intégrées dans l'histoire de la langue française qu'elles ne l'ont été par le passé. Je vais passer donc maintenant à ma deuxième série de remarques. Je vais essayer d'expliquer le cadre analytique que j'ai élaboré pour tirer un peu de sens de ces documents. Le cadre analytique. Si nous acceptons le principe énoncé plus tôt, que c'est les locuteurs qui font évoluer les langues plutôt que l'inverse, nous ferons bien de fonder notre histoire du français de Paris sur une analyse fiable de la communauté des locuteurs en question. Puisqu'il s'agit d'une communauté urbaine, nous ferons bien de nous documenter sur le phénomène de l'urbanisation. Premier point. Deuxième point, puisqu'il s'agit de la langue d'une communauté urbaine, nous ferons bien aussi de regarder ce qui se passe normalement dans la langue des villes. Les villes sont des entités complexes, caractérisées par une grande diversité culturelle et par une forte stratification sociale. Ce sont les lieux privilégiés de l'interaction entre les humains, des lieux de contact entre personnes provenant souvent de milieux linguistiques différents. Or, il se trouve que les 20 dernières années ont vu la publication de recherches importantes, d'abord sur la théorie de l'urbanisation en Europe, et ensuite sur le contact de dialectes. Et deux ouvrages en particulier ont retenu mon attention. Le temps me manque ici pour regarder en détail ces ouvrages fort riches. J'en tirerai ici le minimum nécessaire pour vous permettre de suivre mon raisonnement. D'abord, les théories de l'urbanisation avancées par Hohenberg et Lies. Hohenberg et Lies proposent une distinction fort suggestive entre deux types d'urbanisation, un système dit à réseau et un système dit à place centrale. La réussite des villes se développant selon le système à réseau dépend avant tout de leur capacité d'occuper et de garder une position nodale, une position clé dans les réseaux internationaux du commerce. C'est le cas de Venise, c'est le cas d'Amsterdam et je dirais que c'est le cas de Londres. La réussite des villes se développant selon le système à place centrale, en revanche, dépend de toute autre chose. Elle dépend plutôt de leur capacité de mobiliser les ressources matérielles et humaines se trouvant dans leur hinterland ou leur arrière-pays. Eh bien, à mes yeux, c'est notamment le cas de Paris. Au XIIIe siècle, l'arrière-pays, l'hinterland, de Paris, c'était la France, À l'époque, la France, au XIIIe siècle, la France, c'était l'île de France, n'est-ce pas ? Si vous alliez en Normandie, vous alliez en Normandie et vous n'étiez pas en France. Et en Auvergne, c'était pareil. En Auvergne, quand vous veniez ici, vous veniez en France. Parce que là-bas, vous n'étiez pas en France, vous étiez en Auvergne. Eh bien, la réussite ultérieure de la ville de Paris a exigé que cet arrière-pays s'étende à tout l'Hexagone. En cela, les Parisiens ont réussi tellement bien qu'ils ont convaincu les Auvergnats, les Provençaux qui vivent en France. C'est un exploit que Londres n'a jamais pu réussir chez nous. Faire dire à un Écossais, un Gallois, encore moins à un Irlandais, qu'il habite en Angleterre est tout à fait impossible. Eh bien, Hohenberg et Lys distinguent trois grandes phases dans l'urbanisation de l'Europe entre l'an 1000 et le milieu du XXe siècle, qui basent sur l'industrialisation progressive de nos sociétés. Ils s'arrêtent en 1950 et c'est là où je m'arrête aussi. Je reviendrai plus tard sur les évolutions particulières qui caractérisent chacune de ces trois phases. Je préfère passer tout de suite à l'aspect sociolinguistique de la question. La question des contacts entre dialectes. La dialectologie traditionnelle s'occupe principalement des petites communautés rurales vivant presque en autarcie qui ont donné naissance aux variétés de langues qu'on appelle en France les patois. L'urbanisation progressive de la société européenne, surtout au XXe siècle, a remplacé ces communautés rurales, statiques, intraverties, par des communautés urbaines, caractérisées par une très grande mobilité et par des interactions fréquentes avec des communautés extérieures. Les dialectes purs de la campagne ont cédé la place aux dialectes très mélangés des villes. Ceci a fait naître une nouvelle forme de dialectologie, la dialectologie urbaine, qui s'occupe non pas de petits groupes repliés sur eux-mêmes, mais sur des groupes constamment en contact avec des gens venus d'ailleurs. Ce qui se produit lorsque des locuteurs de dialectes différents viennent en contact forme le sujet du livre de Peter Treadgill, que nous avons vu plus tôt. En situation de contact interdialectal, les locuteurs font normalement de grands efforts pour optimiser la communication, pour minimiser la distance qui les sépare, la distance linguistique qui les sépare. On parle, dans ces cas-là, d'accommodation linguistique. Mais il arrive parfois que les locuteurs fassent le contraire, qu'ils ne désirent pas se rapprocher des autres. Pour des raisons identitaires, ils peuvent chercher des moyens linguistiques pour se distinguer, pour se distancier des gens avec qui ils viennent en contact. Eh bien, dans l'ouvrage de Treadgill, j'ai retenu trois termes clés. Nivellement dialectal, réduction de différences entre dialectes en contact, coïnéisation, développement d'un dialecte nouveau à partir de mélanges de traits provenant de dialectes différents. Mais même après la coïnéisation, le nouveau dialecte formé par ce moyen-là ne sera pas entièrement uniforme. Il comportera des variantes, c'est-à-dire différentes façons de dire plus ou moins la même chose. Eh bien, ces différentes façons de dire plus ou moins la même chose seront soumises à ce que Treadgill appelle la réallocation, recyclage de variantes résiduelles vers des fonctions spécifiques en tant que marqueurs sociaux ou stylistiques. Eh bien, cela m'amène à ma grille analytique. J'ai confronté les trois phases de l'urbanisation identifiées par Hohenberg et Lys, les trois processus sociolinguistiques de dialectes en contact analysé par Trotgill, et les sources linguistiques parisiennes. Et j'ai été frappé. J'ai été frappé par une chose. Les processus de Trotgill peuvent bien se produire dans toutes les sociétés et à toutes les époques, mais dans le cas parisien, ils n'ont pas été tous les trois prédominants en même temps. Dans le développement du français de Paris, les différents processus sociolinguistiques prennent chacun une importance différente selon le stade d'urbanisation. Et c'est ça ce qui se voit dans le tableau. Mes trois phases d'urbanisation et à côté de chaque phase, le processus sociolinguistique qui, à mes yeux, prédomine à cette époque. Eh bien, ce cadre analytique va structurer le reste de mon exposé. Et vous conviendrez, j'espère, que c'est un tableau bien beau, bien symétrique, trop beau, trop symétrique, peut-être. Le seuil que je franchis là est un seuil dangereux. J'ai construit un système. Et le danger des systèmes, c'est qu'on commence à y croire et qu'on force les preuves à y entrer malgré, bon gré mal gré, au lieu de les laisser parler d'elles-mêmes. Je dois maintenant procéder avec la plus grande prudence. Mais j'arrive, enfin, au vif du sujet, à la troisième partie, mon histoire sociolinguistique de Paris. Et, comme vous voyez, le reste de mon exposé va se diviser en trois parties selon l'ordre chronologique que vous voyez au tableau. D'abord, la phase pré-industrielle. À quelle époque faut-il situer les origines d'un parler spécifiquement parisien ? L'urbanisation de Paris, d'abord. Les origines de Paris remontent, comme chacun sait, bien avant l'arrivée des Romains. Mais sous les Romains, Lutèce est une ville de taille moyenne. Sous les Mérovingiens, les Carolingiens, même sous les premiers Capétiens, la population ne s'élève guère au-dessus de 8-10 000 habitants. L'essor démographique parisien vient seulement à la fin du XIe siècle, commence à la fin du XIe siècle, avec la grande vague d'urbanisation européenne amorcée en Italie du Nord et en Flandre. Parti de presque rien au XIe siècle, Paris devient, à la fin du XIIIe siècle, ou même au XIIIe siècle, la plus grande ville d'Europe. Voici l'hiérarchie urbaine européenne au cours des siècles qui nous intéresse. Et Paris se trouve toujours, après le XIIe siècle, vers le haut. Ensuite, la suivante. Voilà. Voici l'hiérarchie urbaine en France. Il me semble qu'une évolution démographique de cette ampleur n'a pas pu se produire sans avoir des retombées considérables sur le plan dialectal. D'où vient cette nouvelle population parisienne ? Il faut supposer qu'au Xe siècle, la ville était peuplée surtout de gens du cru. Mais pour la suite, nous devons tenir compte d'un fait primordial dans la démographie des villes médiévales et proto-industrielles. Pour des raisons sans doute sanitaires et alimentaires, la reproduction naturelle des populations urbaines était insuffisante, toujours insuffisante. Même pour maintenir un niveau démographique stable, sans parler de croissance. Paris exigeait tout au long de cette période, une injection constante d'immigrants. Au Moyen Âge, ceux-ci provenaient surtout de l'Île-de-France, mais un nombre considérable venait aussi de Normandie et de Champagne. La Picardie avait sa contribution à faire, mais il faut se rappeler que cette région avait déjà son propre réseau urbain, Saint-Omer, Arras, Douai, Lille, etc., qui est capable d'absorber une bonne partie de l'excédent démographique de ces campagnes. Paris, pourtant, était une ville exceptionnelle, non seulement par sa taille, mais aussi par la gamme des fonctions qu'elle remplissait. À sa fonction de base commerciale, menée par les marchands de l'eau, s'ajoutait la fonction religio-éducative, la cathédrale et l'université, et enfin la fonction administrative, l'administration de la justice royale. Paris était exceptionnel aussi par sa diversité socio-culturelle. Suivant le modèle des villes médiévales, la société parisienne était dominée par une oligarchie commerciale, judiciaire, ecclésiastique. La masse de la population comportait des milliers d'individus exerçant une riche polyphonie de métiers qu'on trouve énumérés dans le livre des métiers d'Étienne Boileau. Enfin, en bas de l'échelle, nous trouvons une grande cohorte de gens sans racines, des marginaux, des gueux, qui venaient de partout et continuaient à s'accumuler en bas de la population jusqu'au XVIIIe siècle. Ce qui peut nous surprendre, c'est que la noblesse, y compris la personne du roi, occupe une place relativement faible dans cette communauté. Paris médiéval était une ville surtout commerciale et administrative. À cette époque, la noblesse préférait de loin la vie de château et avoir la saleté et l'insécurité des villes, on comprend facilement pourquoi. Qu'en est-il de la langue des Parisiens ? Là, je vais parler de la colonisation. La chute de l'Empire romain voit la naissance dans le nord de la Gaule d'une multiplicité de dialectes issus du latin, le normand, le picard, le champenois, et dans l'Île-de-France, le dialecte que les philologues ont baptisé le francien. On a longtemps pensé que le français de Paris n'est que le prolongement direct de ce dialecte, le francien. Mais c'est une vision bien trop simpliste. Les recherches dialectologiques du XXe siècle ont révélé dans la campagne autour de Paris des formes linguistiques très différentes de celles de la ville. En ville, ils disent « ils portent ». En Île-de-France, dans les patois, ils disent « ils portons ». Avec l'accent sur la deuxième syllabe. Il portait, il portient. Un seau d'eau devient un seau d'eau. Ma foi, ma foi, etc. D'où viennent les formes urbaines ? Puisque Paris est au cœur de l'Île-de-France. D'où viennent les formes urbaines ? Eh bien, les cartes de l'ALF, de l'Atlas linguistique de la France, peuvent nous renseigner. Certaines de ces formes qu'on trouve dans Paris se retrouvent, la base des formes viennent, se retrouvent dans les dialectes de l'Île-de-France. Mais certaines autres formes se retrouvent dans des dialectes de l'Ouest. Les deux premiers, porte et portait, se retrouvent dans les dialectes de l'Ouest. Et certaines autres, ma foi, un seau d'eau, dans les dialectes de l'Est. La leçon que j'en tire, c'est que le français de Paris n'est pas un dialecte pur. C'est un mélange à base de francien, mais avec un nombre considérable d'apports d'autres dialectes, notamment le normand et le champenois. Si je reprends la terminologie de Trudgill, le français de Paris serait le fruit d'une colonisation. À quel moment ce processus de colonisation s'est-il mis en marche ? À quel moment le français de Paris a-t-il commencé à se détacher du continuum formé par les autres dialectes de la France du Nord ? Les premiers stades de nouveaux dialectes et de nouvelles langues sont toujours les plus obscurs, les moins bien documentés. Nous n'avons pas de manuscrits rédigés à Paris en français avant le XIIIe siècle. Il me semble légitime de supposer que le brassage dialectal à Paris, qui a commencé avec les grandes migrations à Paris au cours du XIIe siècle. Mais la colonisation qui a dû se produire à ce moment-là, ou a commencé à se produire à ce moment-là, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Cette mixture a mis au moins 2 siècles pour se stabiliser. Qu'est-ce qui nous le dit ? Les manuscrits du XIIe, du XIIIe siècle ne transcrivent pas directement la langue parlée. Mais ce qu'on remarque dans ces manuscrits, c'est qu'il n'y a aucune uniformité dans leur orthographe. Et les différentes graphies qu'on y trouve ne sont pas entièrement muettes. Analysées statistiquement, elles peuvent refléter la variation qu'on trouve dans les manuscrits. Analysées statistiquement, peuvent nous donner une idée de la variation présente dans la communauté des locuteurs. J'ai analysé à cet effet un corpus de textes administratifs rédigés au prévôté de Paris au XIIIe, XIVe siècle, dont voici un exemple. Il en ressort que c'est seulement à la fin du XIVe siècle que la mixture dialectale parisienne devient plus ou moins stable. Si nous voulons maintenant reconstituer la situation sociolinguistique à Paris à l'époque pré-industrielle, nous devons imaginer une communauté diglossique, c'est-à-dire une communauté avec 2 langues. Une langue haute, la langue qui remplissait toutes les fonctions prestigieuses, religion, justice, science, éducation, c'était bien entendu le latin. Et il faut penser que chez les clercs, chez les étudiants à Paris, le latin n'était pas seulement une langue écrite. Je ne sais pas à quelle époque remonte le toponyme quartier latin, mais il est certain qu'au XIIIe siècle, le latin s'y parlait beaucoup. Ensuite, dans la masse de la population, chez les habitants permanents, on parlait la langue basse. Ce nouveau français de Paris qui commençait à se distinguer des dialectes de la campagne autour. Enfin, en bas de l'échelle, nous trouvons une autre langue, la langue des marginaux, de ce flot constant d'immigrants qui venaient de partout. Ceux-ci s'expriment dans le dialecte de leur province, dialecte souvent incompréhensible aux Parisiens de souche, qui les considèrent volontiers comme des sortes d'argots secrets faits pour dissimuler des activités criminelles. Je dois passer rapidement maintenant à ma deuxième partie qui se concerne de la deuxième période, la phase proto-industrielle, 15e, 18e siècle. Je commence par l'urbanisation. Le 14e siècle voit la fin de l'âge d'or du Moyen-Âge européen. La phase proto-industrielle couvre une longue période de difficultés économiques. Une baisse dramatique de la production agricole, provoquée peut-être par un refroidissement climatique, amène sous-alimentation, peste et maladie. Une concurrence accrue pour des ressources finies entraîne un effondrement de l'ordre public et des guerres interminables, non seulement en France. Les conséquences démographiques sont lourdes. Certaines villes d'Europe connaissent une chute démographique vertigineuse, d'autres une grande stagnation. La population parisienne voit des fluctuations violentes. La population chute pendant la guerre de Cent Ans, remonte entre 1450 et 1550, chute encore pendant les guerres de religion, remonte en flèche, vous voyez, dans la première moitié du XVIIe siècle, avant de se stabiliser jusqu'à la fin de la période proto-industrielle. La population parisienne à cette époque ressemble à un accordéon géant, absorbant et expulsant des gens d'une manière fort brutale, suivant le cycle économique. Cette époque amène également de grandes transformations dans le caractère des villes. La ville médiévale, je l'ai dit, est un phénomène surtout bourgeois. C'est un centre d'échange et de transformation de la production agricole qui dépend étroitement de son plat pays rural, lequel est dominé par les grands seigneurs terriens, la noblesse et l'Église. La ville proto-industrielle voit renverser cet ordre de dépendance. La bourgeoisie urbaine achète de plus en plus de terres et commence à contrôler la production agricole. La ville s'aristocratise en même temps. La noblesse commence à s'identifier de plus en plus avec la ville et vient y passer plus de temps. Et suivant le mouvement, François Ier installe la cour de façon permanente à Paris en 1528. Le modèle est fourni par les grands princes italiens, les Medici, à Florence par exemple, par les grandes villes italiennes, Milan, Venise, Florence. La ville proto-industrielle se fracture et s'hiérarchise en conséquence. La nouvelle culture de la Renaissance est une culture urbaine. Une forte opposition se crée maintenant entre la ville et la campagne, entre urbanité et rusticité. Intramuros, la civilisation, extramuros, le désert. Au sein de la population parisienne se creusent des divisions profondes. Les élites font tout pour se démarquer du commun populaire. Sur le plan résidentiel, les nantis gravitent progressivement vers l'ouest de la ville, les démunis vers l'est. Sur le plan culturel, les élites rejettent de plus en plus les traditions populaires, vernaculaires, préférant des modèles culturels importés d'Italie ou du monde antique. C'est la culture de la Renaissance et des Lumières. Même au sein des élites, tout ne se déroule pas dans le calme. Il survient des clivages religieux entre catholiques et protestants, jésuites et jansénistes. Il s'ouvre des clivages sociaux entre la haute bourgeoisie traditionnelle parisienne et les nouveaux venus à Paris, la noblesse, entre la ville et la cour. Les Parisiens de cette époque sont divisés officiellement en trois États. Et à l'intérieur de chaque État, il y a d'infinies gradations. Chacun vit maintenant dans une peur constante du déclassement social. Si le développement de la ville médiévale est caractérisé par un mouvement général de convergence, celui de la ville proto-industrielle est caractérisé par le mouvement inverse, une tendance à la divergence et à l'hiérarchisation. Tout cela aura des conséquences considérables sur les structures sociolinguistiques. Alors là, j'arrive à mon deuxième phase de développement sociolinguistique, la phase de réallocation. J'ai dit plus haut que lorsque des locuteurs de dialectes différents viennent en contact, ils cherchent la plupart du temps à réduire la distance linguistique qui les sépare, éliminant les formes dialectales les plus marquées. Ils s'accommodent linguistiquement les uns aux autres. Et c'est certainement ce qui a dû se produire à Paris au Moyen Âge. Mais il existe aussi un phénomène inverse, où les participants cherchent non pas à coopérer, mais à se démarquer, à se distancier les uns des autres. C'est ce qu'on voit actuellement en Catalogne, où les personnes chargées de la standardisation du catalan privilégient systématiquement les variantes catalanes les plus éloignées du castillan, des formes castillanes, pour des raisons identitaires. Eh bien, dans une ville hiérarchisée, fracturée, comme celle de Paris sous l'Ancien Régime, la langue se voit enrôlée comme bouclier identitaire de premier ordre. Les élites parisiennes en particulier vont s'en servir pour se distancier du reste des mortels. La langue sera le reflet de tous les conflits sociaux auxquels je viens de faire allusion. Tension au sein des élites, entre le patriciat urbain, la ville, et la grande noblesse, la cour. Tension entre les élites et la plèbe. C'est ce qui explique, à mes yeux, l'extraordinaire production de grammaire, de dictionnaire, de remarques sur la langue entre le XVIe et le XVIIIe siècle. À la suite de la colonisation médiévale, le parler parisien n'est toujours pas homogène, loin de là. Il véhicule des variantes phonétiques, morphologiques, lexicales, sans cesse renouvelé par l'immigration de gens de la campagne. Je vous rappelle que « variante » est un terme technique en sociolinguistique. « Variante » veut dire différentes façons de dire plus ou moins la même chose. Eh bien, dans cette société conflictuelle, les Parisiens ne peuvent pas rester neutres devant la variation linguistique. Ils dotent rapidement les variantes les plus frappantes d'une valeur sociale quelconque. Certaines seront attribuées à la cour, d'autres à la ville, d'autres au peuple, d'autres à la province. Certaines seront réservées au style noble, certaines au style familier, d'autres encore au style grossier et bas. C'est le processus sociolinguistique que Trudgill appelle la réallocation, qui se fait dans toutes les sociétés, partout dans le monde. Un exemple, la prononciation de la diphtongue OI dans des mots comme droit, le roi, moi, loi. Au XVIIe siècle à Paris, il existait trois variantes de la diphtongue OI. Il y avait la variante « est », on disait donc « le drait ». Il y avait une variante « ouais », on disait « le drouet ». Il y avait une autre variante « ouah », et on prononçait « le droit ». Eh bien, on ne pouvait pas rester neutre devant ces trois variantes. On attribuait à chacun, à chacune, une valeur sociale. Ainsi, « le drait ». Dré, c'était rustique. Droué, ça faisait noble. Le roué, c'est moué. Le droit, c'était bourgeois. Le processus de réallocation, donc, se déroule d'une manière inconsciente, au moyen d'un consensus impliquant tous les membres de la communauté linguistique. C'est comme ça que ça marche, le processus de réallocation. En France, on aime penser que c'est les grammairiens, l'académie, qui ont créé le français et qui l'ont ensuite imposé à la population tout entière. Eh bien, il me semble que c'est une vision très française des choses. Je manipule à merveille toutes les nuances de la langue anglaise, comme le font 60 millions de mes compatriotes. Je ne parle pas des Américains, qui massacrent tellement notre langue que... Mais je n'ai jamais consulté un livre de grammaire anglaise de ma vie, même pas à l'école. Eh bien, dans l'élaboration du consensus sociolinguistique parisienne entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il faut penser que c'est toute la communauté linguistique qui est impliquée. C'est un consensus que les grammairiens viennent enregistrer après coup. Mais pouvons-nous distinguer dans l'élaboration de ce consensus sous l'Ancien Régime, pouvons-nous distinguer l'opération de principe un petit peu précis? Est-ce qu'il y a l'activité d'une main invisible, comme dirait Adam Smith? L'avantage pour les sociolinguistes, des grammairiens, des dictionnaires, des remarques sur la langue dont on voit des quantités à cette époque, l'avantage pour nous, l'avantage que ces textes, auxquels nous devons ajouter le témoignage de nombreux auteurs littéraires, l'avantage de ces documents, c'est qu'ils nous donnent un accès privilégié à l'imaginaire linguistique des Parisiens à cette époque-là, à leur façon de voir leur langue et ses rapports avec la société. Eh bien, l'imaginaire linguistique des Parisiens à cette époque, à l'époque proto-industrielle, est dominé, me semble-t-il, par une forte opposition entre deux prototypes. Celui de l'honnête homme, qui parle bien, et celui du paysan, paysan de ville, qui parle mal. Ces deux prototypes antithétiques dictent, à mes yeux, tout le processus de réallocation. Le prototype de l'honnête homme se manifeste, vous le connaissez très bien, vous le voyez dans toute la grande littérature classique, le théâtre de Racine, par exemple. Nous le connaissons très bien, cet honnête homme. Le prototype du paysan, lui, se montre moins souvent en public. On le trouve, je l'ai trouvé pour la première fois, dans des farces du XVe siècle. On le voit au milieu du XVIe siècle dans un poème formidable qui s'intitule « Épître du bio fils de Pasis » en 1550. Il revient dans la littérature burlesque du XVIIe, dans les mazarinades, c'est-à-dire des pamphlets politiques disséminés autour de la Fronde, dans des sarcelades, des harangues polémiques du siècle suivant. On le trouve, ce paysan, dans les comédies de Molière, dans certaines comédies de Molière, et dans la littérature poissarde du XVIIIe siècle. Il y a des endroits emblématiques dans Paris où ce paysan se pointe le plus souvent. À la place Maubert, au port, à la place de Grève et surtout aux Halles. Alors, voici un exemple du type négatif du langage grossier d'une harangère aux Halles. Comment prononçait-elle? Il y avait le phénomène de louisme, le O et U. Le E et le A, E-R, A-R, Marcy, Varon. Remarquez, puisque elle est paysanne, elle dit « c'est » au lieu de « soi ». Je ne vois pas exactement où, mais « c'est » au lieu de « soi ». Dieu devient « gueux », Dieu devient « que », etc. Nous avons tout un tas de terminaisons verbales, « je savons »,« y portons »,« il pourrin », etc. Eh bien, les auteurs de textes comme celui-ci ne cherchent pas le réalisme. Il ne faut pas s'y méprendre. Ces auteurs ne cherchent pas le réalisme comme on le faisait au XIXe siècle. Ce qui les intéresse, c'est le symbolisme social des différentes façons de parler. Il nous offre une vision stéréotypée, caricaturale de la langue du peuple. Mais cela ne diminue pas pour nous leur valeur linguistique. Cette valeur réside d'abord dans le fait que toutes les formes qui se trouvent dans ces textes sont des formes authentiques. Ensuite, la présence de ces formes nous jette une lumière formidable sur l'imaginaire linguistique de l'époque. Donc, nous voici bien renseignés au XVIIe siècle sur les manières dont les Parisiens percevaient leur langue, sur les variantes sociolinguistiques les plus sensibles. Mais perception et comportement ne sont pas la même chose. Avons-nous des sources qui nous donnent accès, un accès un peu plus direct à l'usage réel? En l'absence de magnétophone, nous ne saurons jamais avec précision comment les Parisiens parlaient réellement à cette époque. Nous avons beaucoup d'indications chez les grammairiens qui décrivent souvent d'une manière précise les façons de parler qu'on entendait dans Paris. Nous avons aussi des documents extrêmement intéressants et très curieux qui nous donnent des indices, comme par exemple le journal de Jean Hérouard et ensuite le journal de Jacques-Louis Ménétrat. Jean Hérouard était le médecin du dauphin, le futur Louis XIII. Et lorsque celui-ci avait entre 5 et 10 ans, et pendant cette période de sa vie, Hérouard a eu l'idée de transcrire verbatim les paroles du jeune garçon, employant une sorte d'orthographe phonétique, là où sa prononciation sortait un peu des normes. Ce que j'en retire, surtout, c'est que le parler réel au sommet de la société correspondait moins qu'on le voudrait aux normes du bon usage qu'on voit incorporées dans le prototype de l'honnête homme. Jacques-Louis Ménétrat, lui, vivait dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est un autodidacte, c'était un vitrier autodidacte qui maîtrisait très mal la grammaire écrite. Ce qui fait qu'il laisse passer dans son texte, dans le texte de son journal personnel, le journal de sa vie, il laisse passer dans son texte des quantités de formes calquées directement sur sa langue parlée. Alors là, j'en retiens beaucoup de choses, mais ce qui me frappe, c'est que le parler réel en bas de la société parisienne correspondait souvent, moins qu'on ne le voudrait, aux normes du mauvais usage incorporées dans le prototype du paysan de ville. Ceci me fait penser que le langage parisien à l'époque proto-industrielle consistait en une grande série de gradations entre deux extrêmes. Le parisien était tiraillé entre deux types de normes. Une norme prestigieuse d'un côté et une norme vernaculaire de l'autre. Il poussait son français tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre, selon la situation et selon son niveau de culture. Donc, il faisait exactement comme le Parisien de l'époque actuelle. Conclusion de cette deuxième partie, donc. Tout au long de la période proto-industrielle, la vie sociolinguistique à Paris est marquée par la confrontation de la langue de la ville avec celle de la campagne autour. Cette confrontation connaît son temps fort dans la première moitié du XVIIe siècle, quand le taux d'immigration de la campagne atteint son maximum. La population, je vous rappelle, passe à cette époque-là brusquement de 200 000 en 1600 à 400 000 en 1650. Après cette date, la proportion des Parisiens autochtones augmente et la place du dialecte rural diminue. Ceci dit, il me semble légitime de penser qu'il existait tout au long de l'Ancien Régime, en bas de la société parisienne, un dialecte stigmatisé qui était bien plus proche des parlers campagnards de l'Île-de-France que du bon usage du Louvre et des beaux quartiers. Enfin, ma troisième phase, c'est la phase industrielle, 19e, première moitié du 20e. Nous avons observé dans les deux premières phases une alternance entre des mouvements de convergence, 13e siècle, et de divergence, 16e, 17e. Nous allons voir à Paris, à l'époque industrielle, le déroulement de ces deux mouvements plus ou moins en même temps. Urbanisation d'abord. Le processus d'urbanisation amorcé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle a transformé le tissu urbain de l'Europe d'une manière sans précédent et le suivant, est sans doute irréversible. La transition de modes de production artisanaux à des modes de production industriels exige des concentrations d'ouvriers. Les économies d'échelle exigent des concentrations de consommateurs. Tout pousse dans le sens de l'urbanisation. Et c'est les grandes métropoles, les métropoles les plus grandes, qui s'agrandissent le plus vite. Regardez ce qui se passe à la population parisienne au 19e. Quand nous examinons de plus près la démographie parisienne entre 1800 et le milieu du 20e siècle, nous pouvons distinguer trois phases. Une première phase de croissance lente, première moitié du 19e, deuxième phase de croissance rapide, deuxième moitié, et une troisième phase de stabilité démographique, première moitié du 20e. Comme par le passé, l'expansion de la population parisienne s'alimente essentiellement par l'immigration. La première phase est une continuation de ce que l'on trouve à l'époque proto-industrielle. Les modes de production restent artisanaux. La population immigrante est recrutée surtout dans le nord de la France et les grandes concentrations se trouvent, comme avant, dans le vieux centre de Paris. La deuxième phase, deuxième moitié du 19e, voit les conséquences de la mécanisation et de la révolution ferroviaire. La population immigrante vient désormais de plus loin, souvent des régions non francophones, Occitanie par exemple. Le vieux centre de la ville s'éclate et de nouveaux quartiers prolétariens se créent dans le nord et dans l'est de la ville. Troisième phase, 20e siècle, première moitié, voit les suites néfastes des deux grandes guerres. La population stagne, mais la ville continue à attirer des immigrants, une grande partie provenant maintenant de pays étrangers, Belgique, Italie, Allemagne, Russie, etc. Eh bien, avec cette explosion démographique du 19e siècle, l'industrialisation parisienne modifie les structures sociales et culturelles. Sur le plan social, il s'établit une nouvelle stratification opposant une classe bourgeoise agrandie à un nouveau prolétariat industriel. La révolution de 1848, les horreurs de la Commune conspirent pour faire des classes travailleuses, aux yeux de la bourgeoisie, les classes dangereuses. Et cette stratification, me semble, reste intacte plus ou moins jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre. Les transformations sociales ont leur contrepartie sur le plan culturel. Le développement de l'économie du marché exige l'alphabétisation de la population. Et c'est un but qui se réalise progressivement au cours du XIXe siècle. L'accès à la lecture élargit considérablement le nombre de personnes capables de manipuler maintenant, de participer maintenant à la culture de la tradition haute. En même temps, il modifie profondément la culture populaire. Celle-ci avait été liée traditionnellement à la religion, aux activités des corporations artisanales. Petit à petit, se crée dans la culture populaire de nouveaux rituels, le 14 juillet, le Tour de France, le sport, le cinéma, etc. Eh bien, quelles ont été les conséquences sociolinguistiques? Alors là, le processus que j'identifie le plus dans cette période-là, c'est le processus de nivellement dialectal. En fait, j'observe dans le français de Paris au XIXe siècle deux tendances opposées, sinon contradictoires. D'abord, un mouvement convergent d'un nivellement dialectal. Ensuite, un mouvement divergent qui accentue la stratification sociolinguistique de la ville. Prenons le nivellement d'abord. Nivellement dialectal comporte une réduction des différences entre les dialectes en contact. Quelles étaient les langues dialectes en contact à Paris au XIXe siècle? Il y avait d'abord la langue standard, détenue surtout par la classe supérieure. un Parisien vernaculaire, hérité du vieux dialecte semi-rural de l'époque proto-industrielle, parlé par la classe inférieure. Enfin, de nouveaux dialectes français et autres apportés continuellement par les immigrants de la province. Eh bien, ce que l'on constate tout d'abord, c'est le progrès de la standardisation. Dans la première moitié du 19e, nous voyons la persistance à Paris de nombreux traits hérités du vieux dialecte semi-rural de l'Ancien Régime. Nous avons des indices dans le petit dictionnaire du peuple. Si nous examinons ce dictionnaire, nous voyons des quantités de faits de prononciation et de grammaire dans le peuple parisien de la première moitié du siècle qui correspond très bien à ce qu'on trouve dans les textes antérieurs. Eh bien, les traces de ce vieux dialecte se perpétuent dans le parisien populaire jusque vers 1850. Mais à ce moment-là, les contemporains observent que ce vieux dialecte est maintenant mort, tué sans doute par l'école et par tout l'appareil de la standardisation. Un deuxième aspect du nivellement dialectal à Paris, à cette époque-là, concerne la rencontre, dans les quartiers populaires surtout, du vernaculaire parisien avec les langues dialectes d'immigration, l'occitan, le breton, etc. Il semblerait qu'en situation de contact, les locuteurs parisiens à cette époque-là ont fait exactement comme au Moyen-Âge. Ils ont simplifié leur langage pour éliminer les obstacles à la communication. Donc, si nous regardons l'évolution de la prononciation à Paris au XIXe siècle, on voit l'élimination dans le français familier et populaire, l'élimination de distinctions de longueur, par exemple, dans les voyelles entre « maître posé » et « maître », le maître d'école. Élimination de distinctions de longueur qui n'affectait pas le sens. Disparition de distinctions entre voyelles qui n'étaient pas essentielles. Distinction entre « pâte » et « pâte », par exemple. Sur le plan morphologique, les Parisiens ont agi de façon analogue. Ils ont simplifié les conjugaisons en régularisant et en éliminant beaucoup de verbes irréguliers. La conséquence de ces simplifications a été de créer la variété de langue qui passe aujourd'hui sous le nom de français populaire. On soutient habituellement que le français populaire est une forme corrompue du français officiel. Ce n'est pas exact. Le français populaire est une version modifiée du parler parisien traditionnel, modifiée à la suite de contacts avec des dialectes extérieurs au cours du XIXe siècle. Le progrès de standardisation, le progrès de nivellement dialectal que je viens d'évoquer, le progrès de ces mouvements-là s'observe dans le français de Paris au XIXe siècle, mais ce sont des progrès, ce sont des processus de convergence. Penser que l'histoire du français de Paris se réduit à ça serait ignorer le grand phénomène social du XIXe siècle qui a été la nouvelle stratification industrielle, celle qui oppose une classe bourgeoise à une classe prolétarienne. Eh bien, ce qui se produit normalement dans ces cas, c'est que chaque groupe prend ses distances à l'égard de l'autre. Et c'est ce que nous voyons à Paris tout au long de la période de la Troisième République. La bourgeoisie cultive la langue littéraire, faisant un point d'honneur d'en respecter scrupuleusement les normes. Elle refuse toute simplification des systèmes phonologiques et grammaticaux, comme celle qu'on entendait chez le peuple, gardant ainsi en vie des formes linguistiques qui autrement auraient disparu il y a longtemps, des passés antérieurs, des imparfaits du subjonctif, j'en passe. La classe ouvrière, il me semble, a le même réflexe. Elle prend ses distances. Elle s'accroche à la nouvelle prononciation prolétarienne. Mais nous remarquons en plus quelque chose d'un peu spécial qui me semble être spécifiquement parisien, spécifiquement français. Les vernaculaires urbains, en Grande-Bretagne par exemple, se distinguent de l'anglais de la reine, surtout par l'accent, par la prononciation. Dans le vernaculaire parisien, l'accent et la grammaire comptent pour beaucoup, mais ce qui frappe le plus, c'est le vocabulaire. C'est les paires de mots. Vous avez des quantités de paires de mots, l'un dont le bon, appartenant au bon français et l'autre au mauvais français, si je peux dire, qui est absolument frappant. Ce qui distingue le prolétaire du bourgeois de la manière plus saillante à Paris au XIXe siècle, c'était l'argot parisien. Alors ici n'est pas le lieu de me lancer dans l'histoire de l'argot avec tous ses problèmes de définition. Je dirais seulement que les fonctions fondamentales de tout argot sont d'abord de renforcer la solidarité interne du groupe, deuxièmement, de lancer un défi à la société dont on rejette les normes de comportement. On ne s'étonnera pas si le prolétariat parisien, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a trouvé dans l'argot sorti des bas-fonds du Paris médiéval un outil tout indiqué pour remplir ses besoins identitaires face à une bourgeoisie, à ses yeux, oppressive. Eh bien, c'est bien l'impression qu'on soit quand on écoute, par exemple, les chansons d'Aristide Bruand à l'extrême fin du 19e siècle. Tout cela est bien démodé maintenant, comme les films d'Arletty et de Michel Simon. Mais la comédie de ces films dépend étroitement, me semble-t-il, de la conscience chez les gens à cette époque, d'une opposition nette entre le français correct de la bourgeoisie et le français autre du peuple. La Deuxième Guerre et les Trente Glorieuses ont aboli toutes les bases sociales du français populaire du Troisième République. Beaucoup des formes subsistent encore, mais elles ne servent pas prioritairement comme signum de classe. Elles sont maintenant à la disposition de tous et remplissent un rôle plutôt stylistique, distinguant le formel du familier. Mais là, je commence à dépasser les limites chronologiques de mon exposé. Il est temps de conclure. Dans ce trop rapide survol de l'histoire du français de Paris, je suis parti du principe que c'est les Parisiens eux-mêmes qui ont fait évoluer leur langue et que la langue n'a pas évolué d'elle-même. J'ai donc fondé mon analyse sur l'histoire démographique sociale de la ville, telle que le voient les spécialistes de l'urbanisation européenne. Puisqu'il s'agit de la langue d'une grande ville, j'ai pensé qu'une méthodologie qui présuppose la présence d'une langue parisienne pure était vouée à l'échec. J'ai donc emprunté des idées aux spécialistes des langues dialectes en contact. Le cadre analytique que j'ai élaboré possède une certaine valeur d'exposition, mais il présente néanmoins tous les dangers, ou bien les dangers de tous les systèmes, vu l'extrême fragilité des preuves historiques. Il se peut fort bien que j'ai fait dire aux données ce que j'ai voulu qu'elles disent. Je suis très prêt à reconnaître qu'il s'agit là de mon modèle et que d'autres historiens sont bien capables d'en faire d'aussi valables. Mais faire de l'histoire, c'est faire des hypothèses. C'est aussi raconter une histoire. Eh bien, voici mon histoire. Je vous remercie de votre attention.
Comment est-ce que vous expliquez que le R roulé des années 30 ait disparu ? Père de Colette.
Oui, oui. Là, c'est une longue histoire, parce que là, vous parlez de l'opposition entre le R apical, le R roulé, le R où on fait vibrer l'avant de la langue, avec l'air uvulaire re. Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi le R roulé a disparu, mais l'histoire quand même du R parisien, le re uvulaire, est extrêmement important et intéressante et très influent, parce que le R parisien, le re, R uvulaire, s'est exporté dans toute l'Europe. C'est à partir de Paris que les Allemands ont appris à faire le R re, et les Danois et les Scandinaves aussi. Donc le R parisien uvulaire, non pas le R roulé, mais l'autre, a eu une longue histoire et a eu une vie très influentielle, si je peux dire. On se demande souvent sur l'origine de ce R. Est-ce que ce R était populaire ou aristocratique? Alors, il me semble qu'au XVIIe siècle, le R roulé était le R qui avait le prestige. Dans une des pièces de Molière, le professeur de philosophie, je crois, donne des leçons de prononciation à un personnage, bourgeois gentilhomme, c'est ça, et lui recommande le R roulé. Et il pense que le R grasseillé, le R, était stigmatisé. Alors petit à petit, le R uvulaire est monté en prestige. Et au cours de l'Ancien Régime, et surtout au XIXe siècle, le R uvulaire est devenu la forme prestigieuse et le R roulé est devenu stigmatisé. Donc, ce que vous voyez là, depuis les années 30, la disparition des R roulés, c'est vraiment la fin de la longue montée de cet autre R qu'on remarque pour la première fois, comme je dis, au XVIIe siècle. Ce n'est pas une réponse. La causalité en matière d'histoire linguistique, c'est toujours difficile. Mais on voit tout de même que c'est la fin d'un long processus. C'est ce que je dirais.
Merci, monsieur le professeur, pour votre discours qui a mis en lumière les contacts entre les dialectes. Et il se trouve que nous avons tous connu un professeur de littérature qui s'appelait Étiamble et qui a mené une lutte tenace contre ce qu'il appelait le franglais. Quel est votre sentiment là-dessus?
Sur le franglais? Ah là là! C'est un sujet qui m'intéresse peu. Je suis obligé de faire des cours là-dessus devant mes étudiants et les étudiants adorent ça. Mais c'est un sujet qui m'intéresse peu parce que ça fait beaucoup plus partie du symbolique de la langue que de la réalité. Il me semble que les Français ne sont pas tout le temps en train de sortir des mots d'anglais. De temps en temps, ça arrive, mais la richesse, la créativité, la vitalité, la vie de la langue française, pour moi, la langue française n'est pas du tout en péril. La langue française est pleine de vitalité et c'est la vie du langage ordinaire où foisonnent des créations nouvelles que je trouve absolument fascinantes. La question de l'anglais, la question du franglais, c'est intéressant pour un linguiste, c'est intéressant parce que les langues en contact, ça fait des empreintes de mots. Et c'est quelque chose qui se passe à tout moment de l'histoire. Et dans un sens, on peut considérer que le nombre de mots empruntés d'une langue à une autre fait une sorte de baromètre des rapports sociaux, culturels entre les deux pays. Normalement, c'est les pays prestigieux qui prêtent des mots, qui envoient des mots vers d'autres. Ça nous donne une idée des perceptions des gens sur sur le prestige, la puissance relative des pays à tel ou tel moment. C'est intéressant, mais ça ne me passionne pas. Je me méfie un petit peu d'hommes politiques qui se mêlent dans la langue. Parce que les hommes politiques, quand ils parlent de langue, les hommes politiques ne s'intéressent pas à la langue. Ce ne sont pas des linguistes. Ce qui intéresse les hommes politiques, c'est le pouvoir. Et quand ils parlent de mots anglais, ce n'est pas les mots anglais qu'ils n'aiment pas, c'est plutôt les Américains ou bien la culture anglo-saxonne qu'ils veulent rejeter. L'impact statistique de mots anglais en français est minime. Quand je regarde les cours que je faisais, les cours sur le franglais que je faisais il y a 30 ans à mes étudiants, la moitié des mots que je citais à ce moment-là ont disparu. On ne les emploie plus en français. On utilise d'autres maintenant, mais ce n'est plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Ces mots changent. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont les langues absorbent les nouveaux mots. De sorte qu'au bout de deux ou trois, mettons une dizaine d'années, les mots sont complètement absorbés dans la langue et on ne les perçoit plus comme étant des emprunts. On les naturalise. Et ces processus d'adaptation de mots étrangers, alors ça m'intéresse beaucoup. Et le fait qu'un mot emprunté à l'anglais puisse se naturaliser français et ensuite créer des quantités de mots français qui n'existent pas en anglais. Je pense à des quantités de mots comme, par exemple, le baby-foot. Est-ce que le baby-foot, ça n'a jamais existé en anglais. Il y a des quantités de mots comme ça. Vous naturalisez ces mots, vous leur donnez une vie française, ça devient des mots français. Vous avez fait la même chose pour l'italien. Au XVIe siècle, il y avait la même panique à Paris. Il y avait Marie de Médicis, il y avait tout le prestige de la culture italienne à Paris au XVIe siècle. Grande panique, le français va voler, le français va disparaître sur la pression de l'italianisme. On voit les mêmes trucs que René Thiamble. Il y a Henri Étienne a fait une satire contre l'italianisme au XVIe siècle, exactement comme Étienne. C'est intéressant pour les gens qui s'intéressent au contact de langue, c'est certain. Mais l'aspect politique de la chose m'intéresse beaucoup moins que l'interférence linguistique et ce qui se passe, ce qui arrive à ces mots une fois qu'ils arrivent en français. Ce que je vois surtout avec les mots anglais qui passent en français, c'est qu'ils changent tout de suite de sens. Ils évoluent. Ça remonte loin maintenant. Je me souviens d'avoir vu devant un restaurant à Clermont-Ferrand. Je vais souvent à Clermont-Ferrand. Et là, j'ai vu devant un restaurant le 5 o'clock à toutes les heures. Et il y a des quantités d'exemples que je pourrais tirer comme ça.
Vous avez utilisé un mot pour expliquer l'évolution du parisien. Vous avez utilisé le mot nivellement. Et donc, ça fait un peu peur, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on utilise de plus en plus des mots qui sont transformés. On ne dit plus une femme, on dit une meuf. On ne dit plus je t'aime, on dit je te kiffe. Des choses comme ça qui prennent de l'ampleur. Alors, est-ce que c'est un nivellement vers le bas ou est-ce que vous pensez que c'est un nivellement plus naturel ?
Mais là, il y a deux choses, parce qu'il y a le phénomène du verlan et il y a aussi le phénomène de contact. Je ne pense pas que les phénomènes de contact amènent naturellement le nivellement par le bas. Je ne suis pas pessimiste. Je pense que les gens sont très bien éduqués aujourd'hui. Les normes changent, c'est sûr, mais il faut accepte que les normes changent, mais il y aura de nouvelles normes qui vont se créer. Ça ne va certainement pas être une descente perpétuelle. Mais ce qui est fascinant, ce qui me fascine beaucoup, c'est le phénomène du verlan. Parce que le verlan, vous le savez bien, n'est pas du tout nouveau. On trouve du verlan chez Villon, on trouve le verlan au 15e, 16e, 17e siècle. Ça a toujours été présent. Présent dans le langage parisien. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les beurs ou les jeunes aujourd'hui ont adopté ce langage, pourquoi ils ont choisi justement ces formules-là pour créer de nouveaux mots. On peut dire, ce qui est frappant, c'est que ces nouveaux venus ont cherché à adopter les formes les plus stigmatisées de la langue. Au lieu de chercher des formes distinguées, ils ont cherché à s'acclimater, à se naturaliser français en prenant les formes les plus basses. Ça, je trouve intéressant. Mais ce que je trouve aussi également intéressant, c'est le fait qu'ils ont trouvé surtout des moyens lexicaux de le faire. Chez nous, en Angleterre, la distinction sociale se fait surtout, je le disais, au moyen de l'accent. Chacun se reconnaît tout de suite, la place sociale, les origines géographiques se reconnaissent tout de suite à l'accent chez nous. Mais chez vous, les distinctions de style et distinctions sociales me semblent être signalées plus par les choix lexicaux. Et cela m'intrigue. Et donc les petits beurs, quand eux font cela, eux aussi utilisent le moyen français par excellence de signaler les différences sociales et stylistiques, ils choisissent justement des moyens lexicaux. Et c'est extraordinairement, c'est tout à fait fascinant. J'ai fait une enquête une fois à Clermont, je retourne toujours à Clermont. J'ai fait une enquête à Clermont, j'ai été frappé par la présence dans votre langue de milliers de paires de mots type bouquin, livre, argent, fric, argent, etc. Il y a des milliers de mots, de paires de mots comme ça. Alors, ça m'a toujours intrigué. Et pour les étrangers, pour mes étudiants, c'est impossible. Comment savoir le moment où on peut utiliser ces mots du mauvais français? Donc, j'ai fait cette enquête. J'ai trouvé 60 clermontois, autant d'hommes que de femmes, sur toutes les tranches d'âge. Et je leur ai posé deux questions. Je leur ai donné une liste d'une cinquantaine de paires de mots comme ça. Et je leur ai posé deux questions. Imaginez-vous en famille, dans quelle mesure êtes-vous capable de sortir ce mot argotique, familier, vulgaire, etc. Dans quelle mesure ils devaient cocher jamais, ou très souvent. C'est juste 0 jusqu'à 3. Première question, êtes-vous capable de sortir ce mot avec vos intimes, avec vos amis? Deuxième question, êtes-vous capable de sortir de ce mot, imaginez-vous en chemin, en tête-à-tête, avec quelqu'un du même âge, du même sexe que vous, dans un compartiment de chemin de fer. Est-ce que vous êtes capable de sortir ce mot-là avec cette personne-là, que vous ne connaissez pas du tout? Comme ça, j'ai pu donner à chaque personne un score selon le nombre de la facilité avec laquelle ils étaient capables de sortir le mauvais mot. Soit chez eux, soit en public, ou bien dans une situation plus formelle. Alors là, j'ai vu les résultats étaient très, très intéressants. Sur le plan sexe, les femmes parlent toujours mieux que les hommes. C'est-à-dire que le score mauvais français chez les femmes était systématiquement plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Les femmes se donnaient toujours un score inférieur aux hommes. Sur toutes les tranches d'âge, à part les deux extrêmes, les filles de 10 à 15, elles avaient un score supérieur aux garçons. Et à partir de 60 ans, à partir de 60 ans, on revenait à l'égalité. Les scores étaient pareils. C'était pareil. Donc, il y avait des différences de sexe. Il y avait aussi différences d'âge. Alors là, vous voyez, score moyen à l'âge de 10 ans. Les garçons, c'était le score plus ou moins moyen. Les filles, un petit peu plus élevées. L'âge de 15 ans, tout le monde monte. Le score monte. 15, 20, 25, c'est toujours montant. Tout d'un coup, 30 ans, ça chute. 40 ans, ça chute. 50 ans, ça chute. 60 ans, ça remonte. Donc, il y avait le phénomène sexe, il y avait le phénomène âge, phénomène social, classe sociale. Alors là, j'ai eu un problème parce que j'ai utilisé le formulaire de recensement, le recensement de la population française. Alors, ça m'a été d'aucune utilité, ou bien ça m'a aidé en partie, mais il y avait une grande catégorie en bas, de cadre supérieur, cadre moyen, etc., ouvriers, et en bas, personnes inactives. Toutes les femmes au foyer, tous les étudiants devaient se placer dans cette catégorie-là. Donc ça a saboté un petit peu mes statistiques sur le plan social. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que le score des bourgeois était plus ou moins pareil, le score mauvais français était plus ou moins pareil pour les bourgeois que pour les ouvriers. Les gens qui parlaient mieux, ou bien ce qui se disait parler mieux, c'était les gens qui étaient juste en dessous de la petite bourgeoisie. Ce n'était pas les grands bourgeois ou bien les classes libérales, c'était les gens qui étaient juste en dessous, c'est-à-dire les gens qui souffrent de ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. Eux aimeraient appartenir aux grands, et donc ils essayent de montrer qu'ils parlent très bien, eux. Tandis que les gens en haut, ils ont plus de confiance et eux se laissent aller. Ils s'encanaillent parfois. Donc, il y avait ça. L'autre chose qui m'a frappé, est-ce qu'il n'y avait pas de différence donc, entre la partie supérieure de la population et la partie inférieure? Si il y avait une différence, c'est que la partie inférieure ne faisait très peu de distinction entre le comportement en famille et le comportement dans le compartiment de chemin de fer. Et il ne changeait pas tellement de style. Il gardait plus ou moins le même style en passant d'une situation à l'autre. Tandis que les classes libérales, la bourgeoisie, elles, à la maison, entre intimes, ça parlait, ça s'encanaillait facilement. Ça parlait mauvais, mal. Mais en public, non. Là, il se soignait. Mais c'est pas. Comment?
Non, non. Anthony Lodge, merci beaucoup.